Si vous faites une liste rapide, mentale, de ce qui vous met en joie dans la vie, ça commencerait par quoi, Pascal Murtin ?
La mer, et le ciel bleu, et les oiseaux, et courir.
François Hiffler ?
Les questions, les réponses, le matin, le soir, les cailloux.
C'est une joie qui dure longtemps ?
Jamais, mais toujours. Elle ne dure pas longtemps, mais elle est toujours là. Grâce au matin, au soir, aux cailloux.
Pipo Del Bono.
La nuit. Dormir. Le repos. Les gens qui m'aiment, les gens que j'aime, les amis. Et moi, je crois aussi la conscience d'être lucide dans soi-même, dans la tête. Ça, c'est important, la lucidité dans la tête.
Il est 20h sur France Culture et la joie, ça s'organise, ça ne vient pas comme ça, ça se décide. Pipo Del Bono en fait le titre de son dernier spectacle, La Gioia, et il précise, la joie ce n'est pas le résultat, c'est le chemin. Il y a eu des mots en colère avant dans les titres de ses films ou de ses spectacles. La guerre, la rage, le cri, le mensonge, la peur, et puis plus tard est venu l'amour, la nuit, les fleurs, maintenant la joie. Pourtant au centre, il y a un silence. La disparition de Bobo, compagnon depuis 22 ans de ses créations, disparu l'hiver dernier, à 82 ans. Bobo ne savait ni lire ni parler, mais sur scène, il pouvait tout raconter. Pipo Del Bono a toujours fait du théâtre avec des vivants qu'il aime, des êtres uniques. Pipo, la première fois qu'il monte sur une scène, il a 4 ou 5 ans, il joue l'enfant Jésus. Mais comme la veille, chez sa grand-mère, il est resté trop longtemps près du poêle, il a la joue rouge. C'est tout de suite donc le réel, un enfant Jésus gonflé de l'expérience de la vie. Son théâtre est resté aussi proche du feu et de la vie. Une autre fidélité, c'est celle du duo Grand Magasin. Depuis des années, depuis les années 80, Pascal Murtin et François Hiffler font des spectacles sans savoir-faire, comme ils disent, avec la joie du langage au cœur. Pascal a écrit 600 poèmes pour réapprendre à parler suite à un accident et il propose 6 leçons de grammaire étrangère pour jouer avec les mots de la langue française. Pipo Del Bono et Grand Magasin décomplexent nos yeux. Pipo nous dit « on peut être ému devant la vie, c'est permis ». Grand Magasin ajoute « on peut aussi ne pas faire grand-chose qu'être là, se parler et ça marche aussi ». Nous sommes avec le metteur en scène Pipo Del Bono. Son spectacle, La Gioia, la joie, se joue jusqu'au 20 octobre au Théâtre du Rond-Point à Paris. Nous sommes avec Pascal Murtin et François Hiffler de Grand Magasin. Pascal Murtin publie le recueil de poèmes « Oh, désolé mio » aux éditions Les Petits Matins. Et le duo présente dans le cadre du Festival d'automne à Paris 6 leçons de grammaire étrangère. En studio avec nous, une autre voix, celle de Chaton. Son troisième album s'appelle Princesse Pigalle. Il est en tournée et il sera le 28 novembre à la Gaîté Lyrique à Paris. C'est tous en scène sur France Culture. Ça commence avec la joie et avec la voix du philosophe Clément Rosset.
Les moments de joie ne sont pas forcément très, très courants, n'est-ce pas ? Je reprendrai ma phrase tout à l'heure. Il y a des jours où on n'a pas de bon vin, pas de bon moment et pas de moment vraiment jubilatoire. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mon père, qui est mort l'hiver dernier, avait une formule que je trouve maintenant avec la réflexion très profonde. À chaque jour suffit sa joie, n'est-ce pas? Non pas sa peine. Eh bien, je pense qu'une journée où on a eu 10 secondes, ou 1-2 secondes, un moment un peu de très très agréable. Je pense que ça suffit à justifier cette journée, même si elle est assez pénible par ailleurs. Donc, je pourrais en revenir à ma phrase et à la réponse à votre question. Les joies du jour, si je puis dire, pas, je ne pense pas le jour à la nuit, mais les joies courantes ont ceci d'évident pour tout le monde, c'est qu'elles prennent leur assise sur une raison quelconque, un beau la bémol, un bon vin, un beau sourire. Bon, puis il y a des causes de joie encore bien plus profondes, hein, quand ça marche en amour, des choses de ce genre. Je suis assez d'accord avec la citation de Claudel que vous m'avez fait parvenir également. Ce que je puis dire de la joie, c'est qu'elle ne commence pas et n'a aucune fin. Ben, je suis un peu d'accord avec cela. C'est en quoi également la joie est un secret. C'est un secret puisque on ne peut pas dire, alors que dans la joie ordinaire on peut dire, ben, je suis content de ceci, je suis content de cela, mais dans la joie générale, on ne peut rien dire de tel, n'est-ce pas? Cette expérience de la joie peut être considérée comme ayant quelque chose à voir avec une expérience mystique ou une expérience de qu'elle soit de mystique chrétienne ou de mystique, extra-européenne.
Pippo Del Bono, à chaque jour suffit sa joie. Est-ce que votre joie, elle est longue ou courte, vous, quand vous avez des joies dans la journée?
Dans ces périodes, elle est très courte. Parce que je traverse un moment un peu difficile de ma vie. Et alors, la joie, quand elle arrive, elle est très courte. Mais normalement, elle est plus longue. Il y a le temps plus long. Je suis un homme joyeux de nature. Bon, maintenant, je suis un peu dans ce moment-là. Mais normalement, je suis un homme joyeux, oui.
Mais en même temps, c'est vous qui dites que la joie, c'est un chemin. C'est pas forcément le résultat.
Oui, la joie, c'est un chemin. C'est pas un résultat. Oui.
Donc le chemin, il peut durer, lui.
Il peut durer très long. Il peut être traversé des moments de douleur énorme, de noir énorme. Oui.
Et le spectacle, avant de décider de l'appeler La Joie, vous auriez pu l'appeler La Mort Joyeuse.
Oui, parce que c'est un titre qui m'est venu de Tchekhov. La mort d'Ivan Ilovitch.
Et pourquoi le mot mort, vous l'avez enlevé?
Parce que je trouvais qu'il donnait déjà une relation trop liée en parole. Non, je préférais mettre la joie, c'était plus pur. En plus, j'ai rencontré un homme qui était en fin de vie, que je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu penses que c'est mieux comme titre ?» La possibilité de la joie, la mort joyeuse, ou la joie, lui qui était, il y avait là, cela, il m'a fait avec les yeux un signal très vite, qui pouvait dire la joie. Et j'ai décidé la joie.
Et dans le spectacle, je cite un petit extrait, vous dites, la joie n'est pas un résultat, c'est un fait, une chose, un lieu. La joie crée un espace, dissout, fait le vide. Pour conserver la joie, un tonneau ne sert à rien, mais plutôt un pacte. Tu dois décider que la joie est la route de ta vie. Vous l'avez décidé quand, ça, dans la vie?
Je dois encore décider.
Vous devez encore décider?
Oui.
C'est pas encore sûr?
Non.
Au début du spectacle, il y a un carré d'herbe qu'on arrose, et puis il y a des fleurs qui poussent. On a l'impression que c'est en effet peut-être une tombe, et puis que les choses renaissent au-dessus. On pense à Bobo, puisque tout de suite vous dites que c'est un spectacle qui est né... après sa disparition, après sa mort. Et Bobo, je crois que vous l'avez rencontré dans les années 90, justement à un moment où votre corps, à vous, il répondait plus trop.
Oui. Je l'ai trouvé dans un moment très difficile de ma vie, un moment que moi j'avais une belle dépression, et j'étais plutôt pas bien, et je suis terminé dans un hôpital psychiatrique, et là je rencontrais Bobo. Il était 46 ans qu'il vivait là.
Et en quoi? Qu'est-ce qui s'est
passé? J'ai décidé. Il est né à une grande passion, un amour pour lui. J'ai décidé de partir avec lui. Et on a laissé tous. On est parti. Je l'ai kidnappé pratiquement. Et après, il est resté 22 ans avec moi.
Et vous racontez, parce que comme il ne savait pas ni parler, ni écrire, ni lire, il avait une façon de s'exprimer à travers les gestes.
À travers les gestes, ouais. À travers des gestes qui ressemblaient plutôt des gestes, pas des gestes de sourd-muet, mais des gestes qu'il avait inventés lui. Ils faisaient des signes pour raconter. Ils ressemblaient un peu les gestes des Indiens d'Amérique. Des fois, chaque fois, il y avait quelque chose qui ressemblait à ça. Qu'on faisait la femme avec les mains, on faisait différentes choses, oui. C'était un mystère, le geste de Bobo. Oh, lui, il avait pris. C'était très symbolique, les gestes.
Ce que vous dites, il avait le mystère du oui. théâtre, le secret.
Dedans, il y avait les secrets, les mystères, le grand secret du théâtre. Il y avait la vie, il y avait la mort, il y avait l'amour, il y avait la douleur, il y avait la rage, il y avait la passion, il y avait la fragilité, la force, tout dans ses gestes.
Et vous, vous êtes le maître de cérémonie dans la gioia, dans le spectacle. Vous êtes là, vous, très vite, vous dites j'ai envie de vous présenter toute la troupe. Et puis vous les présentez petit à petit. À quel point vous avez besoin des autres? Vous avez besoin d'eux?
Bon, c'est fondamental, les autres, pour moi. J'ai besoin quand même de manger. Surtout maintenant, quand tu n'es plus dans une fragilité, tu as besoin des autres clients comme les personnes qui sont les personnes qui te protègent, qui te donnent la tranquillité, la protection, qui te donnent l'amour. J'ai beaucoup besoin des autres, beaucoup.
Et quels autres? Parce qu'ils ont tous des histoires particulières, des corps particuliers, leurs corps ont une histoire, c'est tous des êtres très singuliers que vous nous présentez.
Tous les autres. Les autres qui sont plus proches de moi, les autres qui sont loin de moi, les autres qui appartiennent à d'autres cultures, les autres qui appartiennent à d'autres... qui sont sans voix, qui sont sans parole, qui sont... Oui, de tous les autres, j'ai besoin.
Et vous évoquez aussi, en parlant du spectacle, de visions que vous avez eues à l'étranger, parfois, ce que ça peut être en Inde, ou à Manille. Comment ça nourrit ça, ce que vous avez envie de représenter après, ces expériences?
Ce sont des choses qui donnent nourrir un voyage... Parce que dans les voyages, pour moi, ça devient des moments où je suis presque à côté comme le monde entier. Alors, dans les voyages, je vois dehors de moi-même. Je vois le monde. Je vois, quand tu vois le monde, tu connais toi-même mieux. Et tu peux faire des spectacles que tu regardes le monde, tu regardes toi-même, la même.
Et vous avez vu quoi du monde, par exemple, en Inde ou à Manille?
J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui sont... J'ai vu en Inde des garçons avec des pieds énormes qui souriaient, qui riaient beaucoup. Et c'était des gens complètement handicapés, mais avec un visage, avec un sourire, avec une vie, avec un... Une énergie extraordinaire. Des fois, ici, tu peux voir des enfants, des garçons qui sont bien, bien en vêtements, bien avec la famille, et ceux sont beaucoup, beaucoup plus tristes. Ces choses-là, ils te restent signées dans le corps.
Voglia di stringersi poi. Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi. Che imbroglio era, maledetta primavera. Che resta di un sogno erotico sei. Al risveglio è diventato un poeta. Se a mani vuote di te. Non so più fare come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. We'll be right back.
C'est un des morceaux qu'on peut entendre dans la Gioia Pippo Del Bono. Et on découvre chacune des personnes de votre troupe qu'on connaît bien. Gianluca, Pepe, vous parlez d'eux, vous racontez ce qui les lie à vous. Et puis vous dites à chaque fois quelques mots. Par exemple, Gianluca, vous vous connaissez depuis toujours, puisque le propriétaire de votre maison, c'était sa grand-mère. Et qu'à l'école, votre mère était sa professeure. Vous parlez de Pépé qui était un réfugié qui a fui la dictature argentine, qui travaille avec vous aussi depuis plus de 30 ans. Il y a sa fille qui vient d'Afghanistan. Et puis là, vous dites, il est comme moi, lui, il peut disparaître. C'est comment quand vous disparaissez ?
Ok.
Pourquoi vous pouvez disparaître, vous aussi ?
Parce que des moments... Le moment où je vais échapper aussi au théâtre, dans toutes les choses, et je vais disparaître. Je vais disparaître un peu dans le monde, dans les choses. Je suis un peu un ours. Des fois, je vais me mettre un peu dehors. Je vais disparaître.
Et pourquoi ? C'est quel moment où vous avez besoin de disparaître ?
Quand je me sens un peu pas très bien. Ça, c'est une période, par exemple, que je me sens pas très bien, alors je vais disparaître un peu.
Peut-être vous allez disparaître là.
Ouais.
Et on saura où vous êtes ou pas ?
Oui.
Vous savez déjà où vous allez disparaître ?
Oui, oui.
Ce sera où ?
Dans la résidence, je ne sors pas.
Vous parlez beaucoup aussi dans le spectacle, enfin en tout cas c'est présent de la folie, de la façon dont soit ça enferme, soit ça libère. Est-ce que ça... Ça peut libérer aussi la folie, ou en tout cas se libérer d'une certaine logique.
Le problème, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Moi, je n'ai pas de problème avec la folie. La folie, c'est bien. C'est quand la folie il amène la souffrance, alors la situation devient plus difficile. C'est la souffrance le problème, non la folie. Quand tu souffres beaucoup, aussi parce que tu as perdu un peu le lien avec la vie, et tu souffres, alors la souffrance c'est horrible. Mais la folie, par ça, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est liberté. C'est...
Pourquoi c'est génial ?
Bon, c'était complètement de voir le monde dans un autre point de vue. Il y a une personne dans ma compagnie qui est une personne qu'on peut considérer un peu fou, mais elle est tranquille, elle vit beaucoup mieux que moi, parce que maintenant, moi, je suis beaucoup plus souffrance que lui.
Et sur scène, la folie, qu'est-ce que ça apporte ?
Sur scène, la folie apporte une certaine liberté, une certaine vérité. Oui, vérité peut-être.
Et vous parlez de voir autrement les choses. Évidemment, ça me fait penser à cette histoire dont vous avez beaucoup parlé, de ces cicatrices qui étaient apparues dans vos yeux. Ouais. C'était aussi le moment où vous aviez rencontré Pina Bausch. Ou...
Ouais.
Et le moment où vous vous dites, bah, peut-être ça fait voir autrement et c'est ça qui est important. Ou comment, oui. Comment on voit différemment ?
Ah, je pense qu'on peut voir différemment les choses et regarder la vérité le même, la plus profonde. Aussi si tu ne regardes pas bien, si tu vois mal. C'est tout le temps la souffrance le problème. Si tu souffres, alors le problème devient grave.
Et sur scène, vous la ressentez, la joie ?
Un petit peu, des moments.
À quel moment ?
À la fin, quand je danse avec grâce, quand je demande au public, c'est où la joie ? Et je me sens pas mal. Quand je vois Jean-Luc, quand je... Oui, pas beaucoup.
On va écouter la voix d'Eric Orsenna et il parlait du deuil, de ce que c'était de faire le deuil.
C'était pas un livre tombeau, c'était pas en finir avec le chagrin. C'était pour dire ma très profonde détestation de l'expression et sans doute de la chose qu'on appelle le travail du deuil. Comme si c'était un travail, comme si un jour le travail serait fini. Un travail, normalement, c'est fini à un moment donné. Ça commence un jour et ça... se termine, c'est pas vrai. En plus, c'est l'inverse d'une certaine manière d'un effort. Moi, ce qui me frappe, c'est que, un peu comme en navigation, je redis tout à la navigation, parce que pour moi, c'est la grande allégorie. on se rend compte que le bon marin est celui qui fait le maximum avec et le minimum contre. Eh bien, j'ai l'impression que celui qui vit et celui qui meurt, il doit faire, si possible, avancer vers le maximum avec et puis le minimum contre.
Pipo Delbonneau, est-ce que vous êtes comme le marin avec le chagrin? Est-ce que vous faites le maximum avec, le minimum contre? Ou est-ce que vous résistez?
Le marin, c'est le...
celui qui navigue en mer.
Oui, je suis un marin, je suis un bateau à voile, moi. Et je suis un marin, des fois... J'aime la mer, j'aime être marin. Des fois, j'ai peur d'être marin. Parce que la mer, il me fait. Je l'aime beaucoup, mais elle me fait aussi peur. Parce que la mer, elle peut changer du temps court. Elle peut devenir très forte, très dangereuse. Nous, on avait traversé des moments que du temps court, on s'est trouvé avec les bateaux, avec des problèmes énormes. Moi, je ne suis pas un grand marin. Je suis un très petit marin. Et alors, quand je me suis trouvé dans ce cas-là, j'ai commencé à avoir peur parce que je pourrais finir contre les pierres, contre les... Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de la préciosité de la vie et je me suis rendu compte comment tu dois respecter la mer, parce que la mer, c'est quelque chose de délicat. Tu te demandes du respect, de l'attention. Parce que la mer, c'est comme l'âme. C'est comme l'être humain. Il peut changer tout d'un coup. C'est comme l'émotion.
Et vous racontez que vous aviez peur justement de ce qui reste pas toujours.
Oui.
Ce qui peut disparaître, ce qui peut changer.
J'ai peur de les choses qui peuvent disparaître. Je suis terrifié.
Ça, c'est toujours vrai.
C'est.
En même temps, à la fin, il y a beaucoup de fleurs, et les fleurs, ça reste pas toujours, ça disparaît.
Pour ça, je vais mettre des feuilles et des papiers.
C'est une bonne solution.
Je ne voulais pas des fleurs vraies, je voulais des fleurs très beaux, elles sont très belles. Il a fait Thierry, qui est un grand...
Thierry Boutemi.
Thierry, c'est un grand constructeur de fleurs, il a fait des fleurs magnifiques. Je ne sais jamais si elles sont vraies ou si elles sont fausses, mais... C'est bien qu'ils sont fausses. Comme ça, elles restent. On ne les change pas tout le temps. Parce que là, on va mourir tout le temps. Puis je vais mourir moi aussi.
Mais le théâtre, c'est quand même très éphémère par essence. Ça vous effraie pas?
Ouais, éphémère, c'est quoi?
Ça disparaît une fois que c'est fini.
Oui, tout le temps peut disparaître. Pour ça, elle fait peur aussi un peu. C'est quelque chose qui est là, qui pourrait disparaître. Oui, c'est vrai.
Parce que vous avez fait des films aussi et ça, ouais. ça reste.
Les films, ils restent tout le temps, c'est vrai. C'est le théâtre qui disparaît.
Mais ça vous fait pas peur puisque vous continuez?
Non, je continue. C'est beau que disparaître à un moment, c'est mieux qu'il disparaisse.
En même temps, ça revient, ça c'est assez beau à la fin du spectacle parce que vous racontez comment Bobo aussi n'avait pas la notion du temps et que donc, par exemple, on pouvait fêter son anniversaire... quand on avait envie de le fêter, parce qu'il n'y avait pas forcément une date, et qu'on n'était pas obligé d'attendre un an. Et donc, chaque fois, le spectacle, c'est un peu comme son anniversaire.
Ouais.
C'est ça aussi, le théâtre, ça revient comme l'anniversaire de Bobo. On n'a pas besoin
de... On le refait, mais 50 fois, que ça va bien le même.
Et on parlait de... Eric Orsenna parlait du deuil. Dans le spectacle, vous dites « Promis, j'arrête », un peu comme une blague, « j'arrête de parler de ma mère » dans les spectacles, dans les films. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chagrin...
Ça veut dire que le discours de la mère il était déjà un peu suffisant. Je l'ai déjà bien développé. C'est un peu l'instant que la mère, il attend un peu. Il y a Bobo maintenant, il y a plus des autres personnes qui manquent. Alors ma mère, il peut rester un peu une expectative. je voulais dire ça.
Et il y a forcément, quand vous montez sur scène, tous ces fantômes qui vous accompagnent ?
Oui. Un petit peu, oui.
Et vous avez l'idée du prochain titre, du prochain spectacle ?
Non. La lutte.
La lutte ? La première chanson de Chaton, c'était Poésie. C'était une chanson manifeste, témoignage de la vie d'artiste, comme il dit. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. Il l'avait enregistrée en solitaire dans son appartement parisien. Pour le deuxième album, c'était aussi sa vie dont il parlait à la première personne. Et maintenant, troisième volet du journal intime, Princesse Pigalle. Et comment s'appellera le morceau ce soir, Chaton ?
Le flambeau.
Et l'histoire de cette chanson ?
Ah, en fait, c'est une chanson que j'ai écrite sur la paternité. En fait, à travers mon père et moi qui suis père maintenant, un peu cette transition, ce qui est, voilà, c'est un peu le, ça m'a fait beaucoup de choses d'être père, et du coup, ça m'a fait poser beaucoup de questions au sujet de mon père, mon rapport à mon père, et j'ai écrit cette chanson. Donc, je suis Chaton. Nous sommes en studio avec Pippo Delbono, Pascal Murtin et François Ifler de Grand Magasin. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charron.
Ça m'a fait plaisir, tu sais. On devrait faire ça plus souvent. Je t'aime pas remuer le passé. Et plus je grandis, plus je comprends. Les questions de bonheur, les questions de rêve. C'est tellement compliqué passer 25 ans. Tu me dis que pour vous c'était plutôt crève. Que d'avoir la vie de vos parents. Et c'est vrai qu'il était pas mal ce rêve. Les quelques traces qu'il a laissées. Chaque jour j'ai le même et chaque jour j'en crève. Bisous de 50 ans après. On n'a pas progressé très très fort. Une femme est toujours moins bien payée. Deux hommes qui s'aiment et s'en cachent encore. Comme ils vous voient la liberté. Mais ça m'a fait plaisir, papa, que tu remues un peu le passé, que tu me racontes un peu tout ça. En vrai, ça m'a fait rigoler, parce que jouir sans entrave et sans permis, et vivre sans temps mort aussi. 50 ans plus tard, bah ouais, pardi, j'en rêve aussi.
Thank you.
qu'est-ce que c'est beau, toi qui as si bien connu les pavés dessus la plage, toi qui en es bien revenu, toi qui es devenu si sage. Parce qu'il y avait quelques gamelles à remplir, et que le monde ça lui va bien, qu'on aille toujours au moins pire. Alors quand je t'ai demandé papa, c'était quoi cette belle affaire, tu m'as répondu en fait je crois qu'on voulait pas la vie de nos pères. Bah ouais au fond on en est tous là, moi non plus je la veux pas la vie de mon père, mais je fais un peu moins le malin maintenant tu vois que c'est moi le père.
Depuis les années 80, ils sont les premiers à avoir fait des spectacles, je cite, sans entraînement et sans savoir-faire, sans danse et sans théâtre, avec juste elle, Pascal, lui, François. Grand Magasin se pose la question, quand on en enlève tout savoir-faire, quand on a tout retiré de la scène, qu'est-ce qu'il reste? Il reste chaque fois le langage pour dire ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, écouter aussi comment on le dit, dire les choses pour les faire exister, remarquer les absurdités, les accepter. François Hiffler, Pascal Murtin, vous vous êtes donné une nouvelle mission, cette fois-ci, inspecter chaque mot de votre langue maternelle qui est le français.
Exact. Et ça s'appelle grammaire étrangère.
Et il y a 6 leçons. Comment c'est venu cette idée de... Puisque vous travaillez depuis longtemps sur le langage, sur la façon dont on dit les choses, dont on fait apparaître, exister avec les mots, mais là, c'est vraiment la grammaire, en tout cas les mots que vous décortiquez.
On a décidé de vérifier chaque mot que, enfin, la grammaire, enfin, la langue française, comme si c'était une langue étrangère.
C'est vrai que ça fait des années que nous parlons, que nous utilisons cette langue dite maternelle et que nous essayons de dire des choses avec. Mais là, la question qu'on s'est posée, c'est avec quoi je le dis ? C'est-à-dire avant même de dire quelque chose, avant même d'écouter le sens de ce que l'on a l'impression d'exprimer ou de dire, mais avec quoi je le dis ? Quels sont ces objets qui sont et, où, pourquoi, avec, demain ? Hier, et soudain, ils nous sont apparus comme des outils à la fois passionnants, mystérieux et surtout mystérieusement acquis, puisqu'on ne sait d'où ils viennent.
On les a appris dès le berceau, effectivement.
Par immersion, par
les mots de nos parents.
En étant des éponges de ce que l'on entendait, de ce que l'on rencontrait, et puis soudain on a considéré que c'est avec ces choses-là qu'on pouvait dire des phrases comme je le fais actuellement, et c'est soudain vertigineux de ne plus penser au sens de ce qu'on dit, mais de avec quoi on le dit. Et donc concrètement, nous sommes dit, ben essayons de faire un catalogue, un examen pas à pas et mot à mot de tous les mots de notre langue maternelle, chose qui paraît impossible.
Il y en a 60 000 mots dans un dictionnaire français.
Donc vous avez du temps devant vous.
On a du temps, et en fait pas assez, oui, on voit tout de suite. Et puis
on le fait complètement dans le désordre. Donc il n'y a aucune méthode.
Ça a commencé par quel mot ?
Ici.
Mais c'est un hasard, je dirais presque. Enfin, il fallait bien partir de quelque chose. La deuxième question immédiate, après avoir choisi le premier mot, qui était donc ici, c'était sur quel critère passer au suivant. Et puis, nous sommes très rapidement aperçus que nous n'avions aucun critère, aucune méthode. C'était tout. C'était le même vrac, peut-être, que celui de l'apprentissage.
Le deuxième mot, c'était maintenant. Comme une main qui tient.
Et vous partez du fait que, tout à coup, si c'est une langue étrangère, le français, alors rien ne va de soi. Et alors on peut questionner tout, comme les questions qu'on pose quand on apprend une langue étrangère.
Oui, exactement. C'est-à-dire que ça nous permet de nous apercevoir à quel point le langage n'est pas nous, alors que nous l'avons acquis, par capillarité, et qui nous semble être nous-mêmes au moment où l'on parle, alors qu'en fait c'est un objet qui nous est imposé et avec lequel, enfin c'est un mystère, parce qu'à la fois le langage nous est totalement imposé, nous est totalement étranger, et en même temps il nous est consubstantiel, et c'est cet étonnement constant que nous essayons de maintenir, et de façon à ce que chaque mot soit non pas un pont pour dire quelque chose, mais une pierre d'achoppement pour trébucher. Et c'est ça notre grammaire étrangère. Donc il faut au moins 6 épisodes. En fait, il en faudrait 6 000, 60 000.
Pour le moment, il y en a 6.
Oui, voilà. Oui. Ça, peut-être, parce qu'il y a aussi une notion de paresse après qui s'installe.
Et c'est aussi particulier parce que c'est dans des lieux différents à chaque fois.
C'est chaque fois des amphithéâtres.
Des amphithéâtres, donc pas dans un théâtre cette fois-ci. Qu'est-ce que ça change ?
Ce qui est important, nous semble-t-il, c'est l'attente déjà de nous-mêmes et des spectateurs par rapport à cette séance, puisqu'ils sont convoqués dans un lieu de transmission du savoir officiel, enfin de véritable savoir, si on peut dire, alors que nous contentons de dire ce que tout le monde sait déjà. D'ailleurs, comment on appelle ça,
le mot d'ordre.
Le mot d'ordre de cette
tout opération. Ce que nous disons, vous le savez déjà.
Et donc, nous enfonçons des portes ouvertes. Et alors, enfoncer des portes ouvertes, autant le faire dans un lieu où, normalement, un lieu destiné à la recherche et à la véritable information. Il y a donc une espèce d'évidence à l'intérieur, comme si c'était soudain beaucoup trop facile, alors qu'on s'attendait à du plus difficile, grâce au caractère impressionnant de ces lieux de transmission de savoir. Ensuite, ça nous permet de ne plus nous poser du tout de questions, disons, théâtrales. Bah, par exemple, comment éclairer l'endroit ? Bah, les endroits, ils ont tous des spots. La plupart sont cassés, d'ailleurs, dans les universités françaises. Donc, il faut quand même finalement rajouter un ou deux petits projecteurs. Voilà, on n'a plus ces questions-là.
Vous avez préparé un petit extrait de, oui. De quelle leçon ?
C'est la leçon 1, ben justement, on est passé déjà au deuxième mot là, avec oui. Maintenant.
Pour désigner le moment que nous vivons actuellement, je dirais maintenant. Main tenant, comme une main qui tient.
La période de 24 heures qui inclut ce maintenant, je l'appelle aujourd'hui. Au jour, D'HUI.
Oui, c'est le jour présent. Aujourd'hui. Au jour du jour présent.
Et nous sommes aujourd'hui.
Au jour du jour présent.
Dimanche.
Le jour qui suivra aujourd'hui. Je l'appelle demain. Et nous serons demain, lundi.
Le jour qui a précédé aujourd'hui. Attention, précédé. Je l'appelle hier. H-I-E-R.
Je ne prononce pas hier comme dans cahier, mais hier.
Et nous étions hier, samedi.
Si un événement précède un autre, je dirais qu'il s'est produit avant Noël, avant de venir ici. Et j'appelle avant hier, que je prononce avant-hier, le jour qui a précédé hier.
Donc ça c'était, dans la leçon 1, on apprend maintenant, hier, demain.
Oui, entre autres.
C'est le tout début de la leçon.
On apprend aussi ailleurs.
On commence par des mots simples. Oui.
On s'intéresse aussi au mot « oui », qui nous permet souvent, la plupart du temps...
De répondre affirmativement à une question.
Ou au mot « non », qui nous permet de... Non seulement qui résume la question et lui répond négativement. Avez-vous besoin des clés ? Non. Autrement dit, je n'ai pas besoin des clés.
Et vous parliez de l'estrade et de l'amphithéâtre et des questions que ça règle théâtrale, puisque voilà, l'éclairage, il est comme ça. De fait, l'espace, j'imagine, n'est pas très grand et on fait avec.
Assez restreint.
Assez restreint, quelques... et vous dites que vous aimez bien toujours offrir très peu à voir pour vous approcher du spectacle invisible. Ce serait quoi ce spectacle invisible idéal pour vous ?
Ben, ce serait effectivement une situation dans laquelle on a, comme vous le dites, très peu à voir, assez peu à entendre, mais dans laquelle mystérieusement on ressent soit une espèce de jubilation, soit une excitation intellectuelle. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. En tout cas, ce serait ça, le spectacle invisible. Pour renforcer cet aspect, d'ailleurs... de jubilation, nous avons quelques invités parfois, selon les leçons. Par exemple, dans la prochaine leçon qui a lieu le 14 octobre, nous avons quatre invités qui sont tout simplement des amis, mais dont deux ne sont pas de langue maternelle française. Ils rebondissent en général à nos descriptions et à nos enfoncements de portes ouvertes par leurs propres interrogations, leurs propres remarques.
Et vous en avez déjà fait un spectacle invisible ?
Ben non, jamais, on n'a encore pas réussi.
Pour l'instant, on se cantonne à nos leçons de grammaire. Mais c'est presque invisible, car on voyage dans la langue.
En fait, là, ce qui disparaît presque, en tout cas, ce qui disparaît, c'est le récit. Ce qui disparaît, c'est même le souci de créer la moindre rhétorique autre que la description elle-même du langage. Finalement, le spectacle disparaît, c'est vrai. Il ne reste plus que les cailloux du chemin. On ne sait plus quel est le chemin, il ne reste plus que les cailloux. Et on regarde comme un minéralogiste, on s'arrête devant chaque caillou, chaque
pierre,
et on s'interroge, tiens, qu'est-ce que c'est, du quartz, du feldspath ou non, je ne connais pas son nom. Et puis on la jette aussitôt sur le bas-côté et on passe au suivant. Donc aucune vision du chemin, aucune vision du paysage, c'est juste un passage de caillou en caillou, mais avec doigté et plaisir.
Pascal Murtin, la langue française, à un moment donné, elle s'est retrouvée étrangère pour vous, puisque je pense donc à ce recueil de poèmes que vous faites paraître. En 2007, vous avez un accident, un traumatisme crânien qui fait que vous avez perdu le langage, les mots, la plupart des mots. Donc là, vous êtes dans la vraie position de réapprendre la langue maternelle.
Oui, j'ai dû réapprendre la langue maternelle. Les premiers mots qui me venaient étaient bizarrement en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Mais ensuite, j'ai dû réapprendre ce que voulait dire verre, écouteur, bouteille. Enfin, tout ce que je voyais, je devais le nommer. Et j'étais incapable de faire ça dans un premier temps.
Et ça a été quoi le chemin, la méthode ?
L'une des méthodes, c'était de l'orthophonie pure et simple. Et puis la deuxième méthode, c'était d'écrire moi-même des mots. Alors au début, c'était des mots très courts et peu à peu, deux mots, trois mots. Et ensuite, c'est devenu des chansons. Et en fait, les chansons me permettaient de dire un peu plus de mots, alignés les uns après les autres.
Et quand on lit les poèmes qui sont devenus des chansons, on a l'impression que c'est à travers justement le jeu et la sonorité que vous êtes retourné à la langue.
Peut-être, je ne sais pas exactement par quel phénomène. C'était surtout le sens. Enfin oui, effectivement, les sonorités, mais comment les mots se forment et s'enchaînent effectivement et rythment les phrases et se forment des phrases. Qui me surprennent moi-même, parce que justement
là... Avec des sens multiples parfois.
Voilà, c'est des ambivalences, des ambiguïtés.
Il y a une des premières phrases du recueil, c'est « Il s'agissait d'écrire une phrase en français, mais ce fut si long que j'en oubliais le début. » Tapé à la main en 35 minutes le 2 décembre 2007. Ça, c'était le tout début.
C'était au tout début.
Et vous en écriviez avant des poèmes ?
Oui, un peu, mais sans. J'en écrivais aussi pour les spectacles. En fait, c'était pas vraiment des poèmes, mais nous écrivions avec François des textes. Donc c'était comme des poèmes, en fait.
Est-ce qu'on peut écouter alors une ou deux chansons ? C'est des chansons très courtes, c'est les petits poèmes qui sont.
Soit celle-là, là. Dites-moi, Rose Marguerite, celle-ci, elle était chantée, mais normalement elle était.
Non, mais à la guitare, sinon.
À la guitare, oui, très bien.
De toi à moi, de moi à vous, Je vous avoue, waouh, waouh, de nous à vous, de toi à moi, à mes genoux, ouh, 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 de toi à vous, de moi à vous, je vous avoue, waouh, 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 waouh. C'est la vache. Ce qui mieux mieux, ce qui m'émeut, ce qui m'émeut, c'est la vache.
Merci. À la fin du recueil, donc il y a tous les poèmes et puis il y a un petit texte où vous écrivez, Pascal Murtin, c'est l'imperfection même du langage qui le rend indispensable, parce qu'il ne remplit jamais sa tâche, on a encore besoin de lui. Ça décrit vraiment votre travail à Grand Magasin.
Oui, c'est un texte qu'on avait écrit tous les deux et que l'éditeur a adopté comme postface de l'œuvre poétique de Pascal. Ça s'appelait Le sentiment de compréhension, et c'est vrai que une des questions, effectivement, qui nous fascine dans le fait de parler, c'est qu'on ne sait jamais si on a véritablement compris ce qu'on a dit, et surtout si on s'est fait comprendre, ce qui fait que ça nous incite à recommencer pour voir si on comprend, ou pour voir si on est compris, etc., etc. C'est donc l'imperfection du langage qui fait qu'on a toujours besoin de lui. Si on arrivait à tout dire au mieux immédiatement, il n'y aurait plus rien à dire, peut-être.
Pascal Murtin, vous continuez l'écriture de poèmes ?
Oui, je continue l'écriture de chansons et j'en fais à peu près, oui, toutes les semaines, tous les jours.
Et le lien, le rapport au langage, en quoi il a été modifié ? Le fait de l'avoir perdu et retrouvé ?
Ça n'a pas vraiment modifié, en fait, c'est juste une sensibilité d'écoute. C'est comme si j'entendais différemment. Donc je fais des espèces de lapsus presque naturels. Donc c'est plus des erreurs, des erreurs et des fautes de langage qui font que ça fait des nouvelles phrases et des chansons.
Et on parlait tout à l'heure avec Pippo Del Bono de la fidélité à sa troupe, à certaines personnes de la troupe depuis plus de 30 ans. Vous, ça fait aussi plusieurs décennies que vous travaillez ensemble maintenant. Qu'est-ce que ça apporte dans le travail ? Comment on avance, on grandit ensemble dans le désir qu'on a de la scène, de théâtre, de ce que vous avez envie de fabriquer ?
Je sais pas, il y a forcément une espèce de confiance qui se développe avec le temps, ça c'est sûr. Peut-être une rapidité de...
Oui.
De choix. Souvent, devant un carrefour, disons, on va avoir tendance, et c'est peut-être un inconvénient, on a tendance à deviner ce que l'autre va choisir entre la droite et la gauche.
Précéder un petit peu ses choix. Oui.
Ouais. Et donc, avec le temps, peut-être, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre le risque de se contredire plus, puisqu'il y avait une sorte d'unanimité partagée pendant un certain temps qui fait que on peut maintenant avoir confiance dans la possibilité de sortir de l'unanimité un instant, d'aller piocher ailleurs, tenter autre chose. Ce qui est arrivé d'ailleurs par l'accident de Pascal aussi, qui fait qu'elle a, alors que je pense qu'avant, il y avait eu très peu d'incursions dans une œuvre personnelle de notre part, hein, de façon presque volontaire et presque militante. Ouais. Maintenant, il n'est pas exclu d'aller griffonner quelque chose par-ci, par-là, de façon séparée ou d'avoir une idée qui pourrait paraître incongrue à l'autre. Et c'est un grand enrichissement que, paradoxalement, le temps passé ensemble nous permet, je crois.
Hello everybody, hello everybody on the other side.
Puisqu'on parle de corps qui ont une histoire, de réinvention de la langue, il y a eu cet été au Festival d'Avignon l'invention d'un moment particulier. Rebecca Chaillon, performeuse et metteuse en scène, sort de répétition quelques minutes pour nous parler. Cet été, elle présentait « Sa bouche ne connaît pas de dimanche », un spectacle performance avec Pierre Guillois. Une nouvelle bouchère dans un village arrivait, une femme, noire, lesbienne, qui se liait d'amitié avec l'innocent du village. Rebecca Chaillon, est-ce que vous avez réussi à sortir de répétition quelques minutes ?
Oui, je suis là.
Merci beaucoup.
Encore le talon aiguille.
Ah, parfait. En costume alors, un coup de fil en costume. Sa bouche ne connaît pas de dimanche, c'est une expression en créole martiniquais, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que, en vrai, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas de parler. Même la bouche, elle a toujours besoin de parler, elle ne s'arrête pas le dimanche. Et moi, je comprends aussi sur le fait qu'elle a pas, elle a toujours besoin de manger, quoi, aussi, et d'avoir des trucs à dire. Voilà, il n'y a pas d'arrêt dans la lutte. Voilà.
Et puisque ce spectacle, c'est une rencontre entre vous et Pierre Guillois, comment vous raconteriez en quelques mots l'histoire de vos deux corps à vous ?
Ce qui m'a fait rire avec le temps, c'est vraiment que moi, je travaillais pas avec des hommes au plateau. Vraiment, c'est justement des corps qui m'effraient. Parce que j'aime bien me transposer à travers les corps qui sont au plateau et c'est un corps dans lequel j'avais l'impression de ne pas pouvoir me reconnaître et donc de ne pas pouvoir le guider ou de ne pas pouvoir travailler ensemble. Et en fait, avec beaucoup de discussions avec Pierre, et il a pris lui-même son chemin là-dedans. Donc nos corps très différents, lui blanc, une cinquantaine d'années, très fin, et moi grosse, noire et la trentaine. C'est finalement assez bien rencontré. Et quand je suis au Jardin de la Vierge, il y avait le sujet de la religion qui s'est posé tout de suite pour moi. Pierre était complètement pas croyant et moi plutôt en questionnement sur la religion. Et je suis tombée au même moment sur le livre Cochon Créole qui parlait de religion, de rituel, de Noël, justement de la naissance de Jésus et du cochon. Et en allant travailler avec Pierre en Bretagne, j'ai vu le lien avec ce cochon et avec sa région comme la mienne en Martinique qui sont des régions qui se sont beaucoup battues, qui ont lutté pour une indépendance, et qui pourtant ont une histoire qui date de la colonisation. C'est les Bretons et les Normands qui ont ramené le cochon sur l'île. Voilà, donc il y avait plein de choses comme ça, des croisements, qu'on avait envie de se raconter.
Et il y a d'ailleurs un troisième être humain sur scène, être justement pas humain, mais vivant, sur scène avec vous.
Oui, on a Pépette, qui est une petite cochonne de 7 mois. Voilà, j'espère qu'elle pourra rester avec nous, mais voilà, elle est avec nous tous les jours. Et je ne l'ai pas sacrifiée. Donc elle rejoue tous les jours.
Parfait. Et sur scène, lui, il a une liste de pardons. Et elle a une liste de vœux. C'est quoi ses vœux à elle ?
Mes vœux à moi étaient de peut-être changer la représentation qu'on a de la religion, qui est très, justement, finalement, une image patriarcale avec un homme, blanc patriarcal même, avec un homme blanc, vieux, qui aurait... le pouvoir, donc son souhait à elle, c'est que Dieu soit une femme noire, green, des Caraïbes si possible, qui fasse des arts plastiques.
Merci beaucoup Rebecca Chaillon, et bonne suite de répétition en talons.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. Pippo Dalbono, quand vous parliez de votre mère, vous disiez « comme elle, je raconte ma vie à tout le monde, comme elle qui racontait notre vie à l'épicier, au facteur qui passait en vitesse, elle qui se faisait espionner par les gens, comme moi qui ne fais qu'espionner les gens, comme moi curieux des histoires des autres, de la vie des autres, des vies pour s'attacher, pour se sentir un peu moins seul au monde peut-être, comme un enfant qui a besoin d'une mère, d'un père, de frères. » Est-ce que ça c'est toujours important dans votre vie, raconter votre vie et faire raconter aux autres leur vie pour se nourrir ?
Oui, je suis dans ces moments tout le temps. Des fois un peu moins. Maintenant, c'est une période où je suis un peu moins à raconter mon histoire. Je suis un peu plus fermé, comme je dis, dans les périodes ours. Mais c'est une caractéristique que j'ai prise de ma mère. Celui-là, de parler avec les gens, parce que les gens, ils deviennent comme une façon pour te faire sortir ton problème, ton angoisse, ton chose qui ne marche pas.
Parce que c'est ce que vous faites tous les soirs, vous parlez
oui.
Aux gens.
Les moi-même, les choses qui passent.
Et ça va durer combien de temps, votre période ours?
Je ne sais pas, j'espère qu'il va terminer. Vite. J'ai besoin de ressortir.
Puisque le spectacle finit dans les fleurs, j'avais envie qu'on finisse, Pascal Murtin, avec un de vos poèmes très court ou traversé aussi par les fleurs.
Dites-moi, Rose Marguerite, combien valent ces fleurs? 2 roses? 8 marguerites? Combien valent ces fleurs? Quelle valse? Combien valent ces fleurs? Dites-moi, Rose Marguerite, combien valent ces fleurs? Il y a plus de marguerites ou plus de fleurs? Dites-moi, Rose Marguerite, combien valent ces fleurs? 4 fois plus de marguerites que de roses? Dites-moi, Rose Marguerite, combien valent ces fleurs? Quelle valse?
On a commencé par la joie en se disant qu'elle ne venait pas comme ça. Elle s'organise sur scène dans les spectacles dont on a parlé. Pipo Del Bono, la Gioia, c'est au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 20 octobre et puis en tournée. Grand Magasin, la prochaine leçon c'est le 14 octobre au Batignolles à Paris dans le cadre du Festival d'automne. Chaton sera en concert après une tournée à la Gaîté Lyrique à Paris le 28 novembre. Je dis merci à Lionel Quentin pour la réalisation de cette émission. Merci à Inès Duperron pour la préparation. Et à la technique ce soir, merci à Benjamin Vignal et Antoine Espel. Bientôt, il sera 21h, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson.